Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des publications d'histoire, actualité des recherches, actualisation des rapports du passé à notre présent. Pour commencer avec Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, nous allons interroger Daniel Volman et Annette Wiewiórka qui viennent nous présenter leur dernier ouvrage, leur dernière enquête pourrait-on dire, on expliquera cela dans un instant, sur le procès des époux Bach en 1954-1955 en France, procès qui servit de prélude au débat sur la contraception dans notre pays, dans la société française et également à la naissance du futur planning familial. Puis Clara Royer, maîtresse de conférence à la Sorbonne Université et spécialiste de littérature et d'histoire de la Hongrie, nous parlera de l'inquiétude des chercheuses et des chercheurs hongrois après la réorganisation de la recherche dans ce pays par le gouvernement Orban. Catherine de Copé viendra ensuite dans sa chronique La Fabrique de l'Autre nous expliquer comment on acquit un métier aujourd'hui décrié, celui de journaliste. Et enfin, dans la séquence finale de notre émission de ce jour, c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. On pourra entendre la voix, par un comédien évidemment, du peintre Gustave Courbet interrogé dans sa prison en 1871 par Le Petit Journal. Marie-Andrée Lagroix Veillalet dans l'émission Pour les femmes et pour les hommes en 1966 à l'ORTF.
Il y a fort longtemps que j'ai commencé à me pencher sur ces problèmes, puisque je crois que le premier abord que j'en ai fait, c'était aux États-Unis quand j'y suis allée en 1947 avec mon mari. C'est vous dire que ce sont des vieux souvenirs. J'ai commencé à publier un premier article concernant la régulation des naissances et la loi française de 1920, qui me semblait extrêmement restrictive. C'était en 1953. Cette loi me paraissait vraiment très restrictive. D'ailleurs, je dois dire que cet article n'a eu aucun retentissement.
Et ensuite, je
me suis re-accroché au problème. Mais je dois dire que c'était après avoir vu Margrethe Sanger, qui était passée à Paris, que j'avais vue personnellement, et qui avait un rayonnement exceptionnel et qui m'avait beaucoup influencé à l'époque. Et alors à ce moment-là, vraiment, je crois, presque par hasard, j'ai été alertée par un fait divers dans la presse, qui était un fait divers absolument lamentable, d'une pauvre femme qui avait laissé mourir son quatrième enfant de faim étant enceinte du cinquième. Cette femme était infirme, elle était certainement psychologiquement très atteinte, inhibée sur tous les plans. Et elle avait été condamnée, son mari aussi. Et c'est à ce moment-là que, revoyant ce fait divers, j'ai réfléchi, il m'a semblé vraiment qu'il fallait faire quelque chose qui serait absolument sans aucune tendance, ni religieuse, ni politique, qui tâcherait, qui étudierait pour trouver des solutions aux problèmes que vous avez soulevés et qui ne peut pas rester plus longtemps sans solution.
Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bonjour Daniel Volman.
Bonjour.
Bonjour Annette Wiewiórka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce livre, on dit comment, écrit à quatre mains, à deux mains, puisqu'on n'écrit pas avec ses... Ah si, on peut écrire comme au piano, effectivement. Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Qui est Marie-Andrée Lagroix Veillalet, qu'on vient d'entendre, Annette Wiewiórka ou Daniel Volman? Qui est-elle?
Annette Wiewiórka. Je vais commencer. C'est une jeune gynécologue qui a fait la connaissance de Benjamin Veillalet, qui lui est un grand médecin, spécialiste. C'est le premier qui a appliqué le BCG en France. Et cette femme gynécologue, pour diverses raisons, notamment par ce voyage aux États-Unis dont on vient d'entendre quelques éléments, mais aussi parce que son mari appartient à un courant qu'on appelle la puériculture à l'époque, va se lancer dans le combat pour abolir les articles de la loi de 1920 qui interdisent la vente et la propagande pour les produits contraceptifs.
Qui sont les époux Bach, Daniel Volman, qui vont être reliés à un moment ou à un autre de cette histoire à Marie-Andrée Lagroix Véalé?
Rien ne les prédisposait à être reliés à cette gynécologue catholique, pratiquante, appartenant
bourgeoise.
À des milieux bourgeois. C'était un couple de jeunes ouvriers qui habitaient Saint-Ouen et qui ont eu, comme la gynécologue le rappelle dans le petit extrait que l'on vient d'entendre, qui ont eu 5 enfants en 5 ans. Quand leur histoire commence, le cinquième enfant n'est pas né, il est en route. La dénommée Ginette, l'épouse, est enceinte. Et ils sont logés relativement les trois, mais surtout, comme le souligne toujours Marie-Andrée Lagroix-Vaillalé, elle est infirme, Ginette, elle est paralysée du bras droit. Donc vous imaginez avoir 4 petits, puisqu'ils sont nés un par an, à partir de fin 48, début 49. Donc 4 petits-enfants dans un appartement tout petit, sans aide, il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de tout ça. Il faut laver les couches parce qu'il n'y a pas de couches jetables.
Détail que vous rappelez d'ailleurs.
Et qui nous semble très important parce que quand il faut laver les couches de 4 petits, c'est quand même pas si facile. Et donc lui est ouvrier et il leur arrive cette histoire. Le 4e enfant meurt de faim et ils sont incarcérés.
Anaïs Quin.
Et vous avez poursuivi littéralement ce dossier d'instruction, puisque ça, je crois que vous avez beaucoup de mal à le trouver, mais finalement vous avez reçu de l'aide et vous y êtes parvenu. Ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point on voit transparaître l'hypocrisie, notamment à travers le traitement de la responsabilité de Claude, c'est-à-dire du mari de Ginette. C'est-à-dire qu'à la fois, on lui intime d'être un bon père de famille, et en même temps, on lui reproche de ne pas utiliser des moyens qu'il n'a pas, notamment des moyens de contraception.
C'est toute l'hypocrisie de cette loi de 1920, qui donc interdit la propagande et la vente des moyens contraceptifs.
Dans un contexte, elle est votée dans un contexte, et vous le rappelez, de l'après-Première Guerre mondiale, et donc de la nécessité de refaire des enfants pour le pays.
Dans un contexte très nataliste. Il y a d'un côté ces interdictions et de l'autre des raisons à la fois sociales et médicales qui fait que les grossesses très rapprochées ne sont pas souhaitables. Et donc on dit aux femmes et aux hommes, faites attention.
Prenez vos précautions.
Prenez vos précautions. Et on sait pas ce qui ne veut rien dire. Ah. Mais on leur dit quand même, prenez vos précautions. Donc on est dans une situation qui est au minimum hypocrite et en fait totalement schizophrène.
Mmh. Annette Vivorca, cette enquête que vous avez menée toutes les deux avec l'aide de beaucoup d'archivistes que vous avez sollicités, qui ont sorti de là où ils étaient et pas toujours à l'endroit où on pouvait le penser, les dossiers d'archives en l'occurrence, cette enquête vous a conduit à décrire un paysage, à décrire une société, à décrire tous les personnages qui vont à un moment ou à un autre participer à cette histoire, à la fois les amis d'enfance de Ginette, mais aussi les assistantes de police, les assistantes sociales, enfin tous ces personnages qui, la famille elle-même des deux maris et femmes, qui sont autour de ceux et celles qui doivent s'occuper de ces 4 enfants qui n'y arrivent pas.
Oui, on a eu plusieurs surprises. La première surprise, ça a été que ces ouvriers, enfin cette famille d'ouvrières, certes modeste, n'était pas pathologique. C'est-à-dire que le mari ne buvait pas, ils avaient un entourage, ils étaient...
Il a peut-être battu une fois sa femme,
peut-être,
mais pas plus.
Pas plus. Donc on a cette famille qui est finalement une famille banale. Et sur cette famille banale va s'abattre le poids de ces grossesses successives. On n'a pas dit que au moment où commence cette histoire, ils ont 22-23 ans. C'est-à-dire qu'à 23 ans, elle a commencé à avoir son premier bébé à 18 ans. Donc c'est des grossesses qui se succèdent. Et Anaïs Quin, vous avez dit qu'il y avait une hypocrisie par rapport au mari, certes, mais la seconde surprise, ça a été que le juge d'instruction, les juges et les jurés d'assises ont considéré que la responsabilité du mari était à l'égal de la responsabilité de Ginette. Donc on a une histoire qui est ordinaire, qui n'est pas très mystérieux, c'est peut-être pour ça que ce fait divers n'a pas imprimé, et qui va être le cas que va choisir Marie-Andrée Lagroix-Veillalet pour créer ce qui est l'ancêtre en France du planning familial, c'est-à-dire la maternité heureuse.
Anaïs Quin.
D'ailleurs, on peut se demander pourquoi cette affaire tient tant à cœur aux magistrats et à tous les travailleurs publics qui vont s'en saisir. Est-ce que ça n'est pas ces photos qui vont circuler, ces photos de cet enfant rachitique mort dans son berceau? Est-ce que ce n'est pas une histoire d'image aussi qui va frapper?
Alors, la petite fille, Danielle. Qui s'appelle Danielle, elle pèse 4 kilos. Quand elle décède à 8 mois, elle pèse 2 kilos. Quand dans le dossier de l'avocate Marie-Odile Flory, qui est toujours là, que nous avons eu la chance de rencontrer, nous a tout de suite parlé des photos. Mais les photos,
elles ne sont pas publiées, elles circulent dans le milieu judiciaire.
Et quand nous, on est tombé sur les photos, j'ai dit à Daniel, oh, on dirait les photos de la commission d'enquête soviétique à Auschwitz. Et j'ai dit, non, ça on peut pas le marquer.
Et vous l'avez fait finalement.
On l'a fait. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'est pas moi qui le dis.
Ni moi.
C'est Daniel. Le père, c'est Claude.
C'est le père. Le père, en voyant les photos, il dit, on aurait dit des photos de déportés. C'est lui ce qui en voit. On est en 54, ouais. Donc c'est
tout près. On est tout près de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et il n'a rien vu. Le père n'a rien vu. C'est-à-dire que dans cet appartement
minuscule,
la petite Danielle est couchée, le père n'a jamais vu ce bébé nu, personne n'a rien vu, dans une rue qui est comme un village.
Oui,
je voudrais quand même répondre à Anaïs, je pense pas que ça soit une affaire d'image, parce que justement elles n'ont pas circulé.
Pensais à une circulation plutôt parmi les professionnels, pas parmi le public.
Oui,
de professionnels marqués par une image. Qui,
c'est pas tellement ça. C'est que on est dans une période où il y a un développement de l'avortement. Ce qu'on a à côté du baby boom, il y a le boom de l'avortement. Or là,
clandestin évidemment à cette époque.
Clandestin. Et là, on aurait pu penser que ces grossesses rapprochées auraient donné lieu à des avortements. Ce qui n'a pas été le cas. Donc là aussi, on est dans l'hypocrisie, c'est-à-dire on va les juger et les condamner. Ils ont été responsables de la mort d'un enfant, mais ils n'ont pas été jusqu'à l'avortement. Donc on est là dans des situations qui sont inextricables.
C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais tenté d'enfreindre la loi pour s'éviter justement de tomber dans cette situation de désespoir.
Il y a un premier procès. Ce procès a lieu en 1954. Les deux parents sont condamnés à 7 ans, ce qui est une peine lourde. Mais immédiatement, il y a un appel qui est fait par les avocats des deux.
Emmanuel Laurentin, pas un appel, le procès est cassé.
Cassé, pardon. Voilà. C'est cassé pour vice de forme, voilà, vous avez raison.
Pas le procès
de
jugement.
Il est cassé pour vice de forme. Et c'est à l'occasion du deuxième procès qu'effectivement entre en ligne de compte, entre en scène, pourrait-on dire, dans cette affaire, Marie-Andrée Lagroix-Veillalet, qu'on a présentée au tout début, qui va, alors qu'elle a fait beaucoup de déclarations, enfin quelques déclarations sur cette question de la capacité à changer la loi de 1920 sur la contraception et son interdiction, qui va se saisir de ce cas, qui va devenir, et vous posez la question, pourquoi et à quel titre va intervenir dans le procès, donc le deuxième procès en 1955, Anna Wiewiórka.
Donc elle intervient, Marie-Andrée Lagroix-Veillalet, comme témoin sur le fond. Et effectivement, comme elle le dit dans son interview de 1966, elle avait commencé à essayer d'attirer l'attention. Donc elle avait fait des articles dans la presse médicale, participé à un grand colloque, mais elle était littéralement inaudible. Et c'est en se saisissant de ce fait divers qu'elle va trouver une façon de se faire entendre à ce procès. Les deux procès d'ailleurs, la presse en rend compte. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à bouger. Alors, vous posez la question de pourquoi elle. Alors, il y a d'abord ce contact avec le birth control, comme on disait à l'époque aux États-Unis. Il y a sa pratique de gynécologue et les drames de l'avortement. Toutes les années, la fin des années 40, des années 50, les drames de l'avortement, c'est énorme. Simone de Beauvoir y consacre un chapitre dans le deuxième sexe. Et c'est vraiment, il y a une mortalité, il y a autant de naissances que d'avortements. Et là, elle le constate dans sa pratique. Et il y a ce mari qui, lui, est pour moins mais mieux, et dans un courant qu'on appelle eugénétique, aujourd'hui on a la chair de poule quand on prononce ça, parce qu'on pense au nazisme, mais c'était un courant qui disait qu'il fallait moins d'enfants. Et Adolphe Pinard disait, la femme a besoin d'enfants, mais il lui faut 5 ou 6 enfants, pas plus. C'est ce qu'on disait à l'époque.
Anaïs Kien.
Oui, Daniel Volman, on pourrait peut-être rappeler quelle est l'attitude des partis politiques à ce moment-là sur la contraception et sur l'avortement. Puisque on a évidemment en tête l'intervention de Simone Veil à l'Assemblée nationale, éminemment connue, c'est-à-dire qu'une politisation de cette question-là. Dans les années 50, on est encore quand même dans quelque chose de très timide, voire une franche opposition.
Alors, les choses jusqu'au procès, puisqu'on est là pour parler de ces époux Bach, jusqu'au procès, les partis politiques ne s'y intéressent relativement pas.
Même si l'humanité, à partir de ce cas-là, dans le premier procès, dit 5 enfants en 5 ans, c'est beaucoup, quoi. Enfin,
ça, tout le monde est d'accord.
Voilà, tout le monde est d'accord, les médecins, les experts, tout le monde. Les choses changent, justement, à partir de 52, 53, 54, avec quelque chose qui n'est pas un changement et qui concerne les milieux catholiques, et donc les partis politiques
s'interrogent.
Oui, mais il y a une opposition, bien entendu. Et ce qui est étonnant, c'est l'attitude du Parti communiste, dont on aurait pu penser qu'ils étaient plutôt du côté du changement de la loi de 1920, et qui se révèle ne pas l'être du tout. Et je pense que là, Annette, qui a bien étudié la question, peut nous en dire
deux
mots.
Oui, parce que Maurice et Jeannette, c'est-à-dire Maurice Thorez et Jeannette Vermersch, qui sont à la tête, enfin, pour Maurice Thorez, dirige le Parti communiste à l'époque, et est interpellé par une personnalité dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Jacques de Rogy, qui est un très grand journaliste, qui a suivi d'ailleurs l'affaire de l'Exodus auparavant, qui s'est fait connaître par ça, qui travaille à Libération, le grand Libération d'Acier de la Vigerie, en l'occurrence, et Jacques de Rogy fait une série d'articles à la proposition ou en collaboration avec Marie-Andrée Lagroix-Veillalet qui va mettre cette question de cette contraception à peut-être réformer dans la société française. Et il va envoyer un livre qu'il a écrit à partir de ces articles à celui qui est le patron de son propre parti, à savoir Maurice Thorez, qui va pas tout à fait apprécier.
Non, on va accuser Jacques de Rogy du crime de néo-malthusianisme, qui est infamant pour les communistes. Mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie qui a été celle des époux Veillalet, Benjamin et Marie-André. Intervention au procès. Ensuite, c'est eux. Il faut voir que Benjamin Veillalet était d'une grande famille et qu'il était tout à la fois compagnon de route du Parti communiste et sioniste. Et ce qui n'était pas incompatible à l'époque. Et il réussit à convaincre de Rogy de faire cette grande enquête sur l'avortement dont le retentissement est considérable. C'est ce qui va faire que les femmes vont prendre la parole et sur cette question-là, et qu'on va avoir successivement des grandes enquêtes, Françoise Giroud, enfin bon, toute la presse, une véritable campagne de presse. Et là, à la stupeur générale, le 8 mars 1956, le jour même où Evelyne Sullereau, grande personnalité de ce combat, dépose les statuts de la maternité heureuse, Marie-Claude Vaillant-Couturier lance l'attaque. On ne veut pas de la contraception, ce que Jeannette, dans une formule saisissante,
Jeannette Vermersch-Thorez,
dira « On ne veut pas que les prolétaires attrapent les vices de la bourgeoisie. » Donc, pas de contraception. Et la chambre qui est élue après la dissolution par Edgar Faure, qui est une chambre de Front Républicain qui aurait pu permettre l'abolition de cet article, ne va pas le faire à cause de la collusion entre les catholiques et les communistes.
Anaïs.
Oui, c'est d'ailleurs une des grandes qualités de ce livre, c'est de constater à quel point la situation était suffocante pour ces couples. C'est-à-dire qu'on leur demandait à la fois de faire beaucoup d'enfants, mais pas trop, et puis à un rythme un petit peu prédéfini, enfin, à la fois de maîtriser sans avoir le contrôle de leurs outils pour le faire.
Daniel Woldman.
C'est bien tout le problème de l'action pour la propagande pour la contraception. Parce que ce qui est arrivé aussi à ce couple qui était, on le répète, banal, ils n'étaient pas les seuls comme ça, c'est qu'ils ne savaient rien. À un moment, le juge d'instruction dit au mari, mais enfin quand même, vous auriez pu, et toujours la formule, faire attention. Et lui, il dit, je pensais le faire, mais c'est sans doute pas efficace.
Faire attention, c'est-à-dire que c'est la
étant donné le résultat, ça n'était sûrement pas efficace.
C'était pas efficace. Donc, l'idée de faire de la pédagogie vis-à-vis de la sexualité, l'éducation sexuelle à l'école, c'était impensable à cette époque. Donc, oui, il y avait ce carcan, on ne sait pas comment faire. Du moins une partie de la population, l'avortement c'est illégal et il faut pas faire trop d'enfants parce que ça aboutit à des catastrophes.
Et il faut conseiller votre livre non seulement pour le récit qui est extrêmement vivant de toute cette histoire des époux Bach et de leur procès, mais aussi pour cette postface que vous avez rédigée toutes les deux, Daniel Woldman et Annette Vivorca, sur le temps long de la recherche. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites sur la nécessité de se lancer dans une enquête un peu sur une table de bistrot au début, vous en discutez toutes les deux et puis au bout du compte vous vous lancez dans l'enquête et vous voyez que les dossiers ne sont pas là où ils devraient être, les archives ne sont pas là où on pensait les trouver et ça prend beaucoup plus de temps que prévu et vous faites une sorte de plaidoyer pour le temps de travail de l'histoire qui est long et distendu, dites-vous Annette Vivorca.
Oui. On a cette idée, pour moi elle venait de Maurice et Jeannette, et Daniel avait, avec Fabrice Virgili...
De la double biographie que vous avez rédigée
voilà,
sur Maurice...
Voilà, avait écrit ce livre, La Garçonne et l'Assassin, donc on dit on y va. Et moi je dis, facile, on prend le dossier d'instruction, on ouvre le dossier d'instruction, et le livre sort. Ça n'a pas été comme ça. D'abord, le dossier d'instruction, on a mis un certain temps à comprendre qu'il y avait deux procès. Un, cour d'assises de la Seine, l'autre de Seine-et-Oise. Donc le dossier n'était pas aux archives départementales de Paris, mais à Saint-Quentin, enfin...
À Versailles.
À Versailles.
À Saint-Quentin.
À Saint-Quentin en Yvelines. Et là, on trouve la côte. On nous dit, le dossier, on ne sait pas où il est. Il a fallu un an et demi pour qu'on nous retrouve ce dossier. Mais ça a été très bien parce que on n'avait pas envie de lâcher, on a essayé de le contourner. Et on a fait beaucoup de chemin, tant long de la recherche, mais aussi un certain nombre de petits problèmes dans les archives que nous avons quand même pointés.
Daniel Woldman.
Et c'est pour ça qu'on a fait ce journal d'enquête. Parce que c'était très agaçant. On cherchait quelque chose. On allait à Saint-Ouen, on allait à Rennes, on allait dans des tas d'endroits et on n'avait jamais l'ensemble de la documentation qui nous aurait permis d'écrire le livre. Et c'était très agaçant, mais en même temps c'était amusant. On se disait, mais c'est pas possible. Là encore, on n'a pas trouvé. Là encore, on est allé pour pas trouver grand-chose. Et donc on s'est dit, on va faire tout simplement un journal. Et après, on s'est dit, puisqu'on a fait le journal, eh bien, on va l'écrire et le publier.
Oui, et d'autant que c'est amusant parce que vous le mettez en lien avec l'actualité de la recherche, pourrait-on dire, avec la nécessité aujourd'hui de produire plus rapidement des recherches, de faire en sorte que les jeunes doctorants terminent très rapidement leur thèse, beaucoup plus rapidement que lorsque vous avez fait vous-même vos propres thèses, parce qu'il y a des exigences des ministères autour de ces questions-là. Et cela, vous insistez là-dessus.
Oui, on a fait aussi ce journal parce que on est quand même... des vieux profs, bon. Et on s'est dit, nous, on avait tout notre temps, on n'était pas un mois près. Un master, c'est pas possible. dans les conditions de la recherche. Une thèse non plus. Et il y a deux temps. Il y a le temps matériel de trouver les sources. Les mois et les mois où on attend les dérogations, les notifications de dérogation.
Parfois des années d'ailleurs.
Parfois, voilà. Mais l'avantage de cela, c'est que ça fait une longue maturation intellectuelle. Mmh. Et on pense que c'est un peu comme le vin. C'est mieux de laisser un peu reposer les choses et d'écrire avec ce temps de la réflexion.
Alors, on peut donc lire Les Tristes Grossesses, L'Affaire des Époux Bach, 1953-1956, aux éditions du Seuil. Mais vous restez avec nous, en particulier Annette Vivorca, pour évoquer un autre petit sujet très important dont on va parler dans un instant, après avoir écouté un extrait de documentaire qui avait été réalisé par Joanna Kandinska sur le grand historien qu'est Jan Gross et qui a renouvelé profondément l'histoire de la Shoah en Pologne. On écoute ce petit extrait et on en discute avec vous.
France Culture, Merci. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
La plus importante, le plus important phénomène, à mon avis, qui a eu lieu, c'est l'établissement de la recherche historique à ce sujet en Pologne, de l'Académie des sciences, où cette histoire est complètement, avec honnêteté totale, confrontée, discutée et présentée. Alors, comme je l'ai dit, l'historiographie polonaise, toujours, aujourd'hui, est peut-être la meilleure au monde en tant qu'exploration du rapport entre les juifs et les citoyens non-juifs dans le pays occupé pendant la guerre. Et c'est phénoménal. Il y a ce régime qui est au pouvoir maintenant, c'est un régime terrible, en train de détruire la démocratie, l'égalité, etc., etc. Alors, je ne suis pas surpris qu'ils disent des bêtises à propos de... Mais ça va passer. Ce qui va rester, c'est le savoir qu'on a accumulé à ce sujet.
On entendait donc Jan Gross dans le documentaire qu'avait réalisé pour la Fabrique de l'Histoire Joanna Grudzinska, autour, avec Anne Fleury, autour de cette figure. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on le nomme dans le colloque qui se tiendra donc la semaine prochaine à Paris, à l'École des Hautes Études et au Collège de France, itinéraire d'un historien de la Shoah en Pologne. Mais c'est véritablement une figure, Jan Gross. Il viendra pour donner une conférence au Collège de France le 21 février. À 17h, vous êtes du comité organisateur de ce grand colloque qui est très important parce qu'il s'appelle la Nouvelle École Polonaise d'Histoire de la Shoah. Annette Vivorca, vous pouvez nous dire pourquoi faire un grand colloque de deux jours autour de cela à Paris ?
Alors, d'abord pour la raison qu'explique Jan Gross, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une pléiade de chercheurs magnifiques qui, en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, disons après la publication du livre de Jan Gross, Les Voisins, sur le massacre de Jedwabne, c'est-à-dire le massacre de plusieurs centaines de juifs par leurs voisins polonais, a cherché dans un pays qui était démocratique, où les archives étaient ouvertes et où ils pouvaient travailler. Donc ces chercheurs, nous les avions déjà invités en 2005 dans un grand colloque
une sorte de suite
à la BNF, et c'est le droit de suite, et c'est aussi notre façon à nous, universitaires, de marquer notre solidarité avec ces chercheurs. Donc certains d'entre eux ont des publications en français, je pense à Barbara Engelking, je pense à Joanna Tokarska Bakir, qui a fait ce livre fondamental sur le crime rituel.
Ou Audrey Kielczylewski aussi.
Audrey Kielczylewski, elle est française.
Elle est française.
Voilà.
Ou Andrei Leder qui sera présent.
Voilà. Donc, notre idée, c'était à la fois de voir le chemin qu'ils avaient parcouru en près de 15 ans et aussi de marquer notre soutien. C'est donc un colloque scientifique, pointu même, sauf la conférence de Jan Gross qui est au Collège de France et qui est plus grand public. Mais c'est un colloque politique peut-être faut-il dire que c'est le 21 et le 22.
21 et 22, à l'école des études.
Voilà, qu'il y a une pléiade d'organisations, dont le HESS, parce que c'est à le HESS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le CNRS, et puis d'autres institutions.
Et on peut dire que, enfin, franchement, quand on regarde la liste des participants, tout le monde est là. En gros,
tout le monde est là.
Vous avez à la fois Yann Grabowski.
Voilà, on a Yann Grabowski qui est en passe de dépasser Yann Gross dans la haine que lui porte l'extrême droite polonaise.
Ce qui est déjà pas mal. Parce
ce qui est pas mal.
Mais ce qui est étonnant, c'est que toutes ces attaques contre la liberté de la recherche, notamment les lois mémorielles, etc., on a vu, puisque une partie de ces chercheurs étaient invités au mémorial de la Shoah il y a quelques semaines pour évoquer cette question des lois mémorielles, ne désarme absolument pas.
C'est-à-dire ils ont quand même un courage.
Le champ de la recherche est tellement bien installé qu'il paraît presque même de nouvelles stimulations dans leur acuité à continuer ces recherches.
Mais il y a quand même une grande difficulté aujourd'hui dans la partie vulgarisation de la recherche.
C'est dans l'enseignement secondaire et
dans l'enseignement secondaire, dans la muséographie. Il y a toute l'affaire que vous avez évoquée du musée de Gdansk. Enfin bon, c'est une situation de l'Europe centro-orientale des anciennes démocraties populaires.
Alors, ce colloque se tient donc le 21 et le 22 à Paris, donc à l'École des hautes études en sciences sociales. J'imagine que des auditeurs auront envie de venir y assister, c'est ouvert.
L'entrée est libre dans la mesure des places disponibles, comme on suivant dit. La formule.
Donc,
y compris au Collège de France.
Toute la journée du 21, le 21 au soir au Collège de France avec Yann Thomas Gross, et puis le 22 toute la journée également au 105 boulevard Raspail de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci d'être venu évoquer ce colloque.
Merci.
Espérus, un morceau de Matté Bellin pour alto solo et ensemble, une commande de l'ensemble intercontemporain en création mondiale. Il s'agit ici de Hypnose qu'on entend de Matté Bellin par l'Orchestre Symphonique de la Radio Hongroise. Il est dirigé ici par Laszlo Tihanyi avec Beata Mori au dulcimer solo. Et ce morceau de Matté Bellin, Espérus, sera joué demain au studio 104 de la Maison de la Radio à l'occasion, à 20h, à l'occasion du festival Présence. Bonjour Clara Royer.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc historienne, maîtresse de conférences à la Sorbonne Université.
Oui.
On se trompe toujours, vous savez, entre Paris 1, anciennement Paris 1 et Paris 4, à Sorbonne Université en l'occurrence. Vous êtes spécialiste des littératures slaves, mais également de la littérature hongroise, grande spécialiste de la littérature hongroise et d'histoire hongroise. Et vous êtes ici parce que on a appris cette semaine qu'il y avait des menaces, on parlait des menaces sur la recherche en Pologne, mais des menaces assez sévères sur la recherche, en particulier en histoire, mais pas simplement, dans l'université hongroise. Alors quand on voit dans un article comme celui de Libération, signé Florence Labruyère cette semaine, que l'Académie des sciences est mise en difficulté d'une certaine façon, on pense souvent à ces généraux soviétiques ou à ces académiciens soviétiques qui étaient bardés de médailles et qui étaient tenant du stalinisme le plus dur à une certaine époque. L'Académie des sciences en Hongrie, aujourd'hui, ça n'est pas ça du tout.
Non, d'ailleurs, c'est l'image que véhicule la presse gouvernementale, c'est-à-dire à peu près 99% de la presse imprimée en Hongrie, et qui est une image totalement mensongère. D'abord parce que déjà sous le communisme, en particulier si on pense aux années 70-80, l'Académie, c'était le lieu de refuge de tous ceux qui étaient renvoyés ou interdits d'entrer dans l'université. C'est là où une grande partie des opposants au régime ont pu travailler, et c'est depuis l'Académie qui d'ailleurs est publié dans les revues occidentales. Et puis ensuite, parce que donc c'est une Académie qui a été créée quand même sur le modèle français du CNRS, et qui, après la chute du communisme, a été bien sûr réformée, elle a subi plusieurs réformes, et aujourd'hui elle correspond en tout point aux critères d'excellence scientifique demandés par l'Union européenne. Et d'ailleurs, je signale que l'Académie, ces 10 dernières années, a remporté plus de concours dits ERC, c'est-à-dire ces subventions de la recherche financées par le Conseil de l'Europe, que les trois autres pays de Visegrad réunis, c'est-à-dire Pologne, Slovaquie et République tchèque. Donc c'est une recherche qui est internationalement reconnue. Le président Laszlo Lovász, qui essaye de défendre l'Académie en ce moment même, est un récipiendaire de la médaille Fields. Il est internationalement reconnu lui aussi. Donc non, c'est vraiment 5000 chercheurs qui sont des collègues parfaitement intégrés dans les réseaux internationaux. Il n'y a pas cette image-là est une.
Quelle est la menace qui pèse sur ces chercheurs et sur cette Académie des sciences depuis quelque temps et qui fait qu'ils se mobilisent, ces chercheurs en particulier, en descendant dans la rue ces derniers temps?
Oui, il y a eu une grande chaîne autour du bâtiment principal de l'Académie mardi 12 février dernier. La menace, elle pèse depuis déjà plusieurs mois. Il faut dire que ce qu'on a vu se passer avec l'Université Centre-Européenne pouvait annoncer le
pire. Alors l'Université Centre-Européenne, c'est celle qu'on appelait l'Université Soros. Donc
oui, de façon un peu trop rapide, ouais. Mais c'est ce qui s'est passé en 2017-2018. Et maintenant, la CIU va quitter la Hongrie et ouvrir à Vienne. C'est une... En fait, il y a eu deux étapes. La première étape, c'est que le gouvernement a créé un nouveau ministère qui devrait s'appeler ministère de la Recherche, mais qui s'appelle ministère de la Technologie et de l'Innovation, un jargon qui laisse rêveur. Et ce ministère a décidé de supprimer l'autonomie financière de l'Académie, qui avait un budget avant à part, qui n'était pas soumis au moindre ministère, et a donné cette année seulement le quart de ce dont elle a besoin. L'Académie a plein de bâtiments, donc ça veut dire que techniquement, l'Académie ne peut pas payer l'électricité, le chauffage, les salaires. Et deuxième étape, ça a été le 31 janvier dernier, lorsque le ministre de ce ministère a décidé, donc qui s'appelle Laszlo Pálkovics, a publié un soi-disant programme d'excellence, dont le titre même est déjà une antiphrase, en estimant qu'on allait remettre le reste du budget qui correspondait à l'Académie, on allait le mettre au concours. Donc ils ont un peu augmenté ce budget et donc ils mettent au concours ce budget, ce qui permet en fait de démanteler tous les instituts de l'Académie.
En particulier les instituts d'histoire, mais pas simplement.
En particulier pour l'Institut d'histoire, ce qui est très important de comprendre, c'est que depuis le premier gouvernement 2010, Orban, il y a toute une galaxie d'institutions concurrentes qui ont été créées et qui vont pouvoir
concourir.
Voilà, concourir exactement, et parmi lesquelles on retrouve des institutions comme l'Institut Veritas, au nom tout à fait magique, ou le tout récent Institut de recherche de la Madiarité, donc qui s'intéresse à la proto-histoire des Hongrois, et qui vont forcément, et qui eux sont soutenus au niveau de leur dotation de fonctionnement.
Donc ça veut dire qu'il y aurait donc deux histoires concurrentielles qui se mettraient en place avec un soutien plus appuyé pour l'une d'entre elles par le gouvernement Orban, et que cette histoire serait une histoire orientée entre guillemets par des idées politiques liées à ce gouvernement, tandis que le lieu de liberté de débat académique serait plus mis à la marge d'une certaine façon. Clara Royer, c'est cela ou pas?
J'ai envie de répondre par deux points. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une stratégie d'hégémonie culturelle, mais je vais revenir dessus. Et le deuxième, c'est que la concurrence de ces institutions, le problème, c'est qu'on ne sait même pas comment ils vont être évalués dans ce concours, parce que toutes les institutions peuvent concourir. Donc qui sera l'évaluateur? Des fonctionnaires du ministère, ça veut dire qu'il y aura une orientation de la recherche, ça veut dire que certains sujets seront plus ou moins appuyée.
C'est quand même très habile de la part du gouvernement Orban que de prendre justement ces processus, ou du moins ce discours de l'excellence, qui est un discours qui est partagé par toute la communauté européenne, l'Union européenne depuis un certain temps, comme étant le critère qui permet d'évaluer les programmes de recherche, par exemple, de le prendre pour le contourner et en faire autre chose. D'une certaine façon, c'est assez subtil comme manœuvre.
Ou pas, parce qu'il y a une rhétorique du mensonge qui ne fait pas illusion, en tout cas pas pour nos collègues chercheurs et pas pour nous qui essayons de les soutenir. Il y a un rôle du mensonge dans cette affaire qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, c'était intéressant qu'il y ait très peu de documents qui soient sortis de la part du gouvernement. Il y a juste ce programme, ce soi-disant programme d'excellence, et rien n'est expliqué.
Et pourquoi donc y a-t-il cette offensive contre l'Académie des sciences, selon vous, Clara Royer?
D'abord, il y a eu des rumeurs qui circulaient selon lesquelles c'était pour des raisons financières, pour faire des économies. Mais en réalité, le gouvernement investit énormément, notamment dans ce qu'on appelle l'université Orban, qui a été créée il y a 5 ans, 6 ans. Puisque à cette université, le budget est 3 fois supérieur à celui qui était alloué à l'académie. Donc ça peut pas être ça. C'est ce que je vous disais, je pense en fait que ce sont vraiment pour une raison d'hégémonie culturelle. L'été dernier, Viktor Orban a annoncé dans un discours qu'il fallait changer de culture. Et après la CIU, après le bannissement des études de gender, exactement.
Le bannissement des gender.
Les études de genre ont été bannies, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus subventionnées par l'État depuis l'été dernier. Au contraire, on a vu cette semaine Viktor Orban faire un discours pour expliquer que seraient exemptés d'impôts les ménages avec 4 enfants désormais. Donc voilà la place de la femme qui est réservée dans la Hongrie d'Orban. Et donc, on est plutôt dans une stratégie où il faut liquider les alternatives. C'est pour ça, je sais pas à quel point cette concurrence est prévue par le gouvernement. Il s'agit plutôt de liquider cette recherche autonome, qui est la recherche européenne. En tout cas, c'est la première condition d'une recherche scientifique de qualité, c'est l'autonomie. C'est la possibilité pour les chercheurs de choisir leur sujet et de publier librement. Et il est à craindre que cette autonomie-là, non seulement elle soit bannie pour l'académie, mais pour l'ensemble de la recherche en Hongrie. Parce que les universités hongroises n'ont pas de budget recherche en ce moment.
Merci Clara Royer d'être venue relayer ce cri d'alarme lancé par les chercheurs hongrois aujourd'hui sur cette question.
Il y a une pétition qui circule et j'espère qu'on pourra la mettre sur votre site.
On la mettra évidemment sur le site.
Voilà,
évidemment.
Et ce serait formidable si les présidents d'universités, les directeurs, je sais que par exemple le président de l'EHESS a envoyé sa lettre de soutien et c'est important pour nos collègues de savoir qu'ils sont soutenus par nous.
Merci beaucoup, Clara Royer.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arctique, geek, souffri, paysan, red coast, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
Alors, dans ce paysage catastrophique que nous avons dressé jusqu'à maintenant, bonjour Catherine de Coppet.
Bonjour Emmanuel.
Un rapport de 12 ONG vient de pointer que depuis la fin de la guerre froide, jamais la liberté de la presse en Europe n'avait été aussi fragile. Le nombre d'attaques contre les journalistes et les médias a fortement augmenté en 2018, et notamment de la part des États et de tous les États, pas simplement les États dont on vient de parler. Vous avez souhaité réagir à cette actualité et aux récurrentes mises en cause des médias dans l'actualité en vous penchant sur le terme de journaliste, puisque la fabrique de l'autre, c'est de comprendre comment on a qualifié un autre, et en l'occurrence cet autre, c'est le journaliste.
Si le terme date de la fin du XVIIIe siècle, l'activité du journaliste remonte aux premiers écrits relatant des nouvelles, les fameuses gazettes. Apparues en Europe dès 1605, elles se développent d'abord en Allemagne, puis dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, en Angleterre, et avant d'atteindre la France. En 1631, c'est bien connu, le médecin Théophraste Renaudot crée la Gazette de France, considérée comme l'ancêtre de nos journaux nationaux. Cet hebdomadaire de 4 pages réussira à atteindre au début du XVIIIe siècle un petit millier de lecteurs, principalement issus de l'élite. Alors que les écrits publics se multiplient, on parle donc plutôt de gazetier que de journaliste pour désigner celui qui écrit dans une gazette. Dans ce XVIIe siècle, on assiste au début d'une écriture du temps présent qui ne se limite pas aux seules gazettes. La curiosité pour la nouvelle envahit le théâtre, les histoires tragiques, les correspondances et autres mémoires. C'est la naissance de l'actualité, une actualité basée principalement alors sur l'inédit.
Alors est-ce que ce gazetier est à l'époque un professionnel, Catherine ?
Dans ses premiers temps du journalisme, le gazetier est plutôt un homme de lettres qui écrit des nouvelles à l'occasion. Mais paradoxalement, peut-être, dès cette époque sont posées les bases d'une éthique du métier, bien avant toute velléité de professionnalisation. Et c'est Théophraste Renaudot, encore lui, dans ses préfaces au supplément de la Gazette, entre 1632 et 1633, qui donne le ton. Les gazettes sont là pour mettre fin aux faux bruits, c'est-à-dire aux rumeurs, et elles doivent s'appuyer sur une vérification des faits. Comme Gilles Feyel l'a bien montré, si la Gazette a pour mission de faire le récit de l'action du roi Louis XIII, son auteur, en déclarant « chercher la vérité dans ses écrits », affiche une certaine distance vis-à-vis de ce pouvoir qui est sa seule source d'information, mais aussi vis-à-vis de ses lecteurs. Que cette distance existe ou non n'est pas l'important, écrit Feyel, l'essentiel est d'afficher une posture de liberté en proclamant « chercher la vérité ».
Alors la liberté et la vérité sont les deux figures tutélaires qui vont constamment être invoquées au fur et à mesure du développement de l'activité journalistique en tous les cas.
C'est particulièrement vrai au moment des Lumières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écriture publique et le débat d'idées sont jusqu'ici réservés aux lettrés et autres philosophes. Le gazetier apparaît donc au début comme un intellectuel de second rang, autrement dit un écrivain qui n'aurait pas réussi. L'apparition du terme journaliste au début du XVIIIe siècle va de pair avec la multiplication des revues, journaux, gazettes et autres supports de presse. Mais dès sa naissance, le terme est connoté négativement. Pour contrer la concurrence grandissante des journaux face aux livres, les philosophes reprochent en effet aux journalistes d'empiéter sur le domaine du jugement et se méfient de leur méthode de travail. Que ce soit Voltaire, Rousseau ou Diderot, tous s'en donnent à cœur joie dans la critique d'une profession naissante. Les journalistes sont donc constamment obligés de légitimer leur pratique. Et comme l'a bien étudié Magali Prodhomme-Aillègre, le journaliste, qui s'appuyait d'abord sur un idéal d'honnêteté, va progressivement se poser comme homme de vérité.
Et la Révolution française va donner aux journalistes l'occasion de s'affirmer complètement dans le paysage politique et public à la fois.
Et cette évolution s'accompagne d'une nouveauté sur le plan sémantique, puisqu'à la faveur de la Révolution, on voit naître l'expression « écrivain patriote ». À l'homme de lettres, qui a tendance à faire respecter le pouvoir monarchique et religieux, répond la figure de l'écrivain patriote qui s'engage contre l'indignité de l'abus de pouvoir. On peut penser parmi d'autres à Antoine Tournon, fondateur du Mercure universel, qui invoque pour sa part comme tutelle la vérité et la justice. Si on peut parler de journalisme d'opinion, c'est que les journalistes s'affirment désormais comme un nouveau pouvoir qui s'affranchit des pouvoirs en place et pèse dans les débats. Et c'est en partie sur l'opinion publique, qui se construit alors dans la conscience collective, que les journalistes s'appuient pour légitimer leur rôle. Si jusqu'à la fin du XIXe siècle, la figure du journaliste se confond souvent avec celle de l'écrivain, on pense à un Zola par exemple, le métier est donc pensé comme un combat.
Un combat qui permet d'ailleurs d'aboutir à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est un moment clé évidemment, qui va enclencher un mouvement vers la professionnalisation du métier enfin.
Celle-ci se traduit en effet en 1935 par la loi Brachard qui crée le statut professionnel du journaliste. Reste qu'à ce statut a toujours manqué un cadre déontologique partagé à l'inverse d'autres professions. Les valeurs du métier, de même que la critique interne des pratiques, sont donc restées le fait des organes de presse eux-mêmes, voire des individus, avec comme résultat un paradoxe. La régulation du métier de journaliste en France passe principalement par la loi, comme on l'a vu avec la récente loi contre la manipulation de l'information en période électorale, dite loi fake news, ou dans un autre genre, la loi sur la protection du secret des affaires. En ce sens, le rôle croissant des services de fact-checking, c'est-à-dire de vérification de l'information, interpelle. En ces temps de méfiance exacerbée envers la profession, ceux-ci sont de plus en plus amenés, on vient de le voir avec l'affaire de la Ligue du LOL récemment, à ausculter au scalpel les productions médiatiques elles-mêmes, une mise en abîme vertigineuse qui repose de façon forte la question d'une instance déontologique commune.
Merci beaucoup Catherine, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Fabrique de l'autre. C'était à la une.
Le Petit Journal, mardi 7 novembre 1871. Une visite à Courbet. Un artiste de Dijon, qui est un des amis du maître d'Ornan, a obtenu lundi la faveur de le visiter. Et c'est à son obligeance que nous devons les détails suivants d'une exactitude parfaite. Depuis 3 jours seulement, Courbet est en possession de ses pinceaux, de sa palette et de ses couleurs. Il avait demandé au général Valentin l'autorisation de faire une vue de Paris, à vol d'oiseau, des combles de Sainte-Pélagie. « J'aurais peint cela, disait-il à son ami, dans le genre de mes marines, avec un ciel d'une profondeur immense. Paris, avec ses monuments, ses maisons, ses dômes, simulant les vagues tumultueuses de l'océan. Malheureusement, l'autorisation m'a été refusée, sous prétexte que je n'étais pas ici pour m'amuser. Et il ajoutait, « Le local que j'occupe est trop peu spacieux pour me permettre de travailler de souvenirs, moi qui ne suis qu'un copiste plus ou moins exact de la nature, quand elle veut bien se montrer à moi sous ses aspects différents. » Le fait est que, si Courbet est un méchant politique, il n'en est pas moins un des peintres les plus remarquables de ce temps. Et le préfet de police a peut-être tort de nous priver d'une toile qui aurait au moins le mérite de l'originalité. S'il ne le fait pas par intérêt pour l'artiste, il pourrait du moins se départir de sa rigueur en faveur du prochain salon. Puis, comme le peintre n'a garde d'oublier ses idées artistiques, « Je ne puis cependant pas, continua-t-il, faire une étude quelconque représentant le sacrifice d'Abraham ou le songe de Jacob, puisque je ne les ai jamais vus. » La prison a beau faire, Courbet est toujours dans les plus mauvais termes avec l'idéal. « En revanche, dit-il, et comme compensation, on m'a proposé de me livrer à la confection des chaussons de lisière. Cela est bien aussi du réalisme, mais malgré la confiance que l'on prétend que j'ai dans mon talent, j'ai cru devoir décliner cette proposition militaire. » Du régime matériel de la prison, Courbet ne se trouve pas mal. Il a le bon sens de ne pas se plaindre. « Je n'ai rien à dire, » fit-il en terminant. « Je n'en suis pas affecté puisque je commence à reprendre mon embonpoint. Seulement, chaque jour, à 4h30 du soir, j'éprouve le désagrément d'entendre glisser les verrous de ma cellule. Et cela me produit une impression désagréable. » Parbleu, mais aussi qu'allait-il donc faire dans cette galère de la commune ?
Voilà donc pour cet entretien accordé par Gustave Courbet après la Commune, évidemment, qu'il avait épousé, dont il avait épousé la cause, par le Petit Journal. C'était en 1871, une lecture par Nathalie Canoui et une réalisation par Séverine Cassard. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Jacques Hézubert nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Anaïs Quin, on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument, pour parler de nos vêtements, comment vivre habillé. Nous parlerons de pulls qui grattent, de laine polaire et de fourrure animale.
Ouais, c'est les saisons de la mode, c'est
exactement.
Ça exactement. Et pour ce qui est de la suite de l'histoire sur France Culture, ce week-end, sachez que Concordance des Temps avec Jean-Noël Jeannet reçoit demain donc Victor Louzon pour parler de Taïwan comme pays fragile. Et puis on pourra écouter également l'émission d'Amaury Chardot, Jukebox en musique, chaque samedi de 19 à 20h. On parlera de la Méduse au Concordia, aux sombres héros de la mer, les tragédies maritimes à travers trois histoires de naufrages. C'est donc demain, de samedi, donc entre 19 et 20 heures.